voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Xavier Emmanuelli. Ce soir, médecine de crise, médecine d'urgence.
Bonsoir Xavier Emmanuelli.
Bonsoir.
Ce soir, nous allons parler de la première partie de votre, alors elle est grande, mais de votre carrière professionnelle, durant laquelle vous avez été médecin anesthésiste, réanimateur.
Oui, oui.
Co-fondateur de Médecins sans frontières au début des années 70 et médecin au SAMU. Et puis, pendant un moment, communiste.
Et ça n'a rien à voir.
Non, mais ça,
c'est pas une profession.
Mais ça vous a, oui, mais ça vous a formé.
Pour les permanents.
Ça vous a formé.
Oui.
C'est d'avoir étudié pendant, d'avoir été étudiant pendant, au moment, pendant la guerre d'Algérie qui a motivé votre entrée au Parti communiste.
C'est des entrées et sorties, si vous voulez. J'étais pas un militant sérieux, mais je croyais qu'on pouvait changer la société. Que je vous explique. J'ai commencé ma carrière comme médecin généraliste. Je faisais des remplacements partout. À l'époque, c'est une autre société que celle-ci. Les gens pouvaient mourir à domicile. J'ai accompagné des gens. Et on accouchait à domicile. Je peux vous dire que j'avais les jetons. Quand les femmes accouchaient, vous étiez bien seul. Bien seul. Mais j'adorais être seul. Et de faire pour le mieux. Les gens ne connaissaient pas. Il n'y avait pas Michel Simès, il n'y avait pas tous les magazines, il n'y avait pas. Les gens ne connaissaient pas leur corps. La corse arthrose, l'infractus, si vous voulez, ils jouaient avec le langage, mais c'était très mystérieux. La sexualité, je ne raconte pas. Ils ne savaient pas. C'était avant la pilule, avant tout ça. Et.
Donc c'est le milieu des années 60.
Ouais.
38, 48, 58.
Oui. Je vous dis de trouver, on vous appelait la nuit. La ferme isolée, c'est là où il y avait cette petite lumière dans la nuit, c'est là la souffrance. Vous avez une poésie de la vie qui monte, qui vous façonne. Toujours est-il que à ce moment-là, comme j'étais un peu démuni, vous savez, à la fac, on vous apprend les moutons à cinq pattes, le symptôme extraordinaire, le syndrome de Schpoun, c'est pas de Chouli, enfin que sais-je. Mais on vous apprend pas la misère, bobo, malheur de tous les jours. Et là, vous la trouvez. Et le statut humain, vous le comprenez. Donc, la médecine générale, c'est la médecine la plus belle et la plus noble qu'elle soit, parce que elle est chargée de tout ce sens de notre statut sur la Terre. Mais bref, j'étais un jeune homme et je voulais l'urgence. Alors j'ai fait, comme je rêvais de ma vie, j'ai passé le diplôme de médecin de marine marchande. Et j'ai eu la chance de partir comme médecin de bord sur des longs paquebots en Australie, que sais-je. Là aussi, vous êtes seul. Vous avez 300 mecs, dont 260 alcooliques, ou en tout cas du service général. C'est des longues croisières. Et puis là, quand il y a quelqu'un qui ne va pas... La passager qui fait l'infarctus, le mec qui décompense un diabète au milieu du Pacifique, il n'y a pas de... Vous êtes relié à personne.
Et vous aimiez ça?
Oui.
Mais pourquoi? Le danger vous aimez... Plus
non,
c'est dangereux, plus... Vous... Non.
Bon, non. Non, ça c'est une histoire qu'on se raconte. C'est, sans le savoir, comme beaucoup de jeunes gens, je cherchais le parcours initiatique. Je dis maintenant, si on m'avait dit ça au moment où je le faisais, j'aurais mis ma main dans la figure. Vous cherchiez à être confronté à vous-même, en somme. Le danger, c'est bien quand vous le franchissez autrement, puis vous ne franchissez pas toujours. Si vous prenez des chemins de traverse pour ne pas affronter le danger. Mais j'aimais me situer dans la solution. Voilà. Et donc, après ça, j'ai fait au certificat de léprologie. Vous voyez, c'est de... Parce que mon papa m'avait raconté Schweitzer et tout ça. Et je cherchais... Mais dans la vie parisienne, j'en ai pas rencontré beaucoup de lèpre. Mais j'en ai rencontré beaucoup en Afrique.
Et vous avez fait ce certificat parce que vous souhaitiez partir en Afrique?
Je ne sais pas ce que je souhaitais. Ce n'est pas programmé comme ça. Je n'ai pas une carrière. J'ai été médecin dans les mines Merlebach. Frémin Merlebach. 3 ans. C'est pas germinal, mais je peux vous dire que les mecs avaient une vie de merde. Ils étaient présentés comme les meilleurs ouvriers de France. Et quand vous regardiez leur radio, les pauvres mecs, d'abord ils mouraient à... C'était silicosé.
Ils mouraient à quel âge ?
60 ans. Silicosé jusque-là, et le reste tuberculose. Quand t'es... Et puis c'était fier, parce qu'on les baratinait. Hein, si... On disait, vous êtes les meilleurs ouvriers qui sont. Ça me rendait fou, moi. Ça me rendait malade. Ah, puis mon petit va descendre dans la mine, comme son père. Ils ne se rendaient pas compte à quel point ils étaient aliénés. Ils étaient totalement dépendants de la coopérative. Tout était gratos, parce que tout était à crédit. Donc on ne pouvait pas se casser, parce qu'ils ne pouvaient pas payer. J'ai beaucoup appris, là. Vous savez, on ne vient pas communiste, on devient enragé. Quoi. Comment on fait ? Comment c'est possible, cette aliénation ? Il faut comprendre. Vous savez, la définition de la santé, c'est, vieille définition, parce que ça a changé, un état de complet bien-être, non seulement physique, psychique et social. Qui se rappelle que santé, c'est l'environnement social, ne consiste pas seulement en absence de lésions. Il l'avait compris dans cette définition, qui était, mais quand on dit un état de bien-être social, je réfléchissais là-dessus, et j'avais envie de faire quelque chose. Quoi. Je me disais, les gens sont aliénés, ils savent pas qu'ils sont aliénés. Bref, c'est quand on est jeune. Hein. Et voilà, communisme. Mais après, communisme, c'était aussi un peu dogmatique.
Mais vous avez adhéré au parti.
Oui, j'ai adhéré. Ben, dès la fac, d'ailleurs.
Donc, début des années 60.
Voilà. Ouais. Mais j'étais pas seulement... Puis c'était un délice d'aller casser la gueule aux fachos. C'est parce que quand vous êtes jeune... Mais bon, des fois, vous en prenez aussi. Hein.
Vous étiez où à la fac ?
Il n'y avait qu'une fac. Hein. Ah. C'est Descartes. C'est rue des Saint-Pères. Mmh.
Descartes, oui.
Et puis les fachos, c'était Assas. Mmh. Eux aussi, ils aimaient beaucoup la castagne. On était des jeunes, quoi. On parlait d'une idéologie de bagarre. Mais n'empêche, puis il y avait la guerre du Vietnam, puis il y avait la décolonisation, puis il y avait des... Et donc, le Parti communiste, c'est le soleil noir, c'est avec le parti des 50 000 fusillés, l'armée rouge, alors que la France était déshonorée, collaborée, tout ça. Et puis, mes parents, ils avaient fait quelque chose, quoi, ils avaient pris des risques, un petit risque, mais enfin, quoi que... Vous avez envie que votre vie ressemble à quelque chose. Vous êtes jeune. Je suis content d'avoir milité.
Jusqu'à quand ?
Ça s'est fini en 74, définitivement, quand je suis parti au Vietnam. 75, pardon.
Avec Médecins Sans Frontières, qui a été créé en 1972 ?
Oui.
Donc vous êtes un co-fondateur.
Oui, je suis un co-fondateur. Et j'ai fait la toute première mission de MSF au Pakistan oriental, qui va devenir le Bangladesh. Donc on est parti, on n'était pas du tout organisé, mais il fallait aller là. On avait été pendant des années, c'est là que ça se passait. Et là, j'ai vu les Nord-Vietnamiens qui arrivaient. Et le baratin, c'est le Sud-Vietnam veut se libérer, c'est tout seul. Or, on voyait une invasion. Ils n'avaient pas du tout envie de se faire libérer, les gens. Hein. Et il y avait tous les journalistes du monde, quand la chute de Saigon. Ils disaient, ça, c'est le 3e régiment d'infanterie, ça, c'est le régiment de phare. Et vous, vous dites, c'est ça, la libération, c'est un envahissement. J'ai été pris dans ce mensonge. J'ai été volontaire, c'est-à-dire, je pouvais ne pas. Mais je me suis moi-même aveuglé, j'en veux à personne, qu'à moi. Mais du coup, votre grille de référence... de société, d'hommes nouveaux, d'hommes fraternels, tombe d'un seul coup et vous êtes nu. Là, c'est une révélation, de même que vous avez la conversion qui vous tombe sur un pilier d'église, et là, vous avez la conversion négative qui vous tombe. Comment j'ai fait ? Je n'en veux qu'à moi. Le baratin que je me racontais, parce que j'avais envie de me le raconter. Voilà, je ne suis pas devenu anticommuniste pour autant.
Xavier Emmanueli, qu'est-ce que le parti, la structure du parti apporté ?
J'ai toujours cherché la fraternité. C'est ça que ça donnait. Les militants, ils étaient géniaux. Il y avait un baratin, bien sûr, à payer. Mais j'ai vu des militants cocos. qui apportait le pain à la vieille dame qui était au... Et puis tu m'amènes aussi le Figaro. Et il amenait aussi le Figaro. Il mimait la charité, en quelque sorte. Que moi, j'avais pas envie d'être... En plus, je trouvais que le côté catho, Saint-Sulpice, c'était l'opium du peuple, quoi. J'avais pas envie de ça. Bref, vous vous intoxiquez vous-même. Et puis, la manière systématique du discours, la manière de dire que c'est les classes, vous comprenez. La lutte des classes, on peut vous expliquer toute l'histoire avec ça. Depuis Robespierre, mais même avant d'ailleurs, avec les féodaux. Là, c'est une clé universelle, c'est marrant, ça vous plaît. Mais la fraternité des gens, et c'est ça que j'ai cherché toute ma vie. Et j'ai toujours travaillé en équipe.
Oui, justement, parce que vous avez toujours travaillé dans des collectifs, mais tout à l'heure, vous disiez que vous aimiez bien être seul sur un bateau en étant médecin dans la marine marchande. Oui. Donc il y a eu un changement.
Ben, oui.
Parce qu'après, MSF, c'est collectif.
Toujours collectif.
Le SAMU social aussi. Le SAMU aussi, vous avez travaillé au SAMU.
J'adore collectif. Ouais. À condition que je sois le chef.
C'est vrai? Non,
vous plaisantez. Je rigole. Ouais. Non, au contraire. Mais il y a des strates de pouvoir au sein, oui, dans le collectif.
Elles sont obligatoires, ces strates?
Ah, vous dites une question essentielle. Il n'y a pas d'action autrement que hiérarchique. Les militaires disent un chef, une mission, des moyens. Un chef pour prendre la décision et la prendre quoi qu'il arrive. Une mission, avoir des objectifs extrêmement bien définis. Des moyens, bien entendu, parce que ça... À l'époque, les médecins aux pieds nus, grande escroquerie, ça n'existe pas, les médecins aux pieds nus.
Vous pouvez, s'il vous plaît, dire ce que c'est que
Médecins sans frontières a eu le prix Nobel.
Oui, expliquez ce que... Oui, médecins aux pieds nus, oui.
Très content.
Mais en 19... Dans les années 80
99.
10, oui.
Je suis très fier que... J'y étais déjà plus, moi. J'étais parti en 95 pour rentrer au gouvernement.
Oui.
Mais j'avais participé, ces 23 ans de ma vie, ces 23 ans d'une histoire d'amour, vous pouvez, comme disait ma femme... Ton histoire d'amour, c'est les messes. Oui, toi aussi, vraiment un peu. Mais c'est vrai que c'était passionnant parce que vous construisez votre vie. Vous avez vos camarades. Et quand on a pu réussir à faire quelque chose, c'est les logisticiens. C'est eux qui ont fait MSF. Logisticiens, vous les voyez avec leurs cheveux longs, leur boucle d'oreille, leur pétard qu'ils écrasent d'ailleurs sur la moquette quand ils ont fini. Enfin. Des gens inaptes. Aucun patron peut les prendre. Quand on voit des mecs pareils, tatoués. Ouais, seulement c'est ça qui est. Allez, les services. Télécommunications, communication, les chiottes, les filtrations d'eau, la distribution, le dédouaner. C'est pas rien de dédouaner. Vous n'avez pas le formulaire X machin 32. Ben, ils se débrouillaient quand même. Les logisticiens, c'est eux qui ont fait MSF.
Mais quand un collectif se crée comme MSF, est-ce que ceux qui le créent rêvent d'une absence de hiérarchie? Et puis ils essaient et ça ne marche pas, donc il faut...
Oh, ils baratinent ça. Mais...
Oui, quand même, ils le baratinent. Oui.
Mais la hiérarchie n'est pas celle que vous pensez. Par exemple, un infirmier peut être chef de mission au-dessus du chirurgien. Parce qu'il est là, il connaît la mission. Et... Donc le grade n'est pas la mission. Donc c'est une hiérarchie d'efficacité. Et donc, c'est à l'envers. C'est si vous savez faire, si vous avez l'expérience, c'est vous qui conduisez. Et donc, les actions sont forcément hiérarchisées. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Ah, par contre, le recueil de l'information doit être le plus démocratique possible. Tout le monde doit dire, doit donner ses petites bribes qu'il a. Mais une fois que vous avez fait le choix, ça ne discute plus. Mais après, vous assumez aussi. Et si le mec que vous avez envoyé fait une connerie, c'est vous. Et je peux vous raconter 50 000 histoires de ça. Responsable. Et donc coupable, quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau de la hiérarchie.
Xavier Emmanueli, vous avez dit que vous étiez resté chez MSF jusqu'en 1995, moment où vous rentrez au gouvernement.
Ben oui.
Vous êtes parti, vous avez fait des missions jusqu'en... Qu'en 1995
ouais. Ouais. Des missions de supervision. Je ne pouvais pas partir longtemps parce que fallait que je gagne ma vie. Je n'étais pas salarié, jamais voulu être salarié de MSF. Bon, Mais anesthésiste, vous trouvez toujours du boulot, encore maintenant, même vieux, cassé, chenu, comme je dis, je suis anesthésiste, il me pendrait. Je ne leur souhaite pas. Je saurais endormir les gens pour les réveiller. Non, je rigole. Mais j'ai introduit, je crois, en France, la médecine de catastrophe, la médecine de crise. Je comprenais. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est bien d'être au creux d'une équipe qui a confiance en vous. Vous savez, vous avez un niveau, comme disent les militaires, un niveau stratégique, c'est là où vous élaborez le plan. Le niveau tactique, c'est là où vous appliquez le plan, quoi qu'il arrive. Le niveau technique, c'est là où vous l'exécutez. Donc, vous commencez technique, vous êtes les mains dans le cambouis, puis après, vous regardez les difficultés du terrain pour le faire, puis après, vous arrivez à l'état-major. Donc, j'ai été à l'état-major.
Et le SAMU naît à peu près au même moment.
Le SAMU, et c'est pas une relation de causalité.
C'est-à-dire au début des années 70.
Mais vous savez, à l'époque, c'est l'urgence. Et alors, vous trouvez SOS Médecins, vers 64. Europe Assistance, vers 68. MSF, 71. Vous trouvez aussi des équipes qui ont disparu. Le secours médical est reporté. L'urgence fait son apparition.
Et pourquoi ? Pourquoi cette concentration, Xavier Emmanuelli, autour de l'urgence à ce moment-là ?
Le SAMU apparaît. Le SAMU, c'est la pièce maîtresse. Mais il n'y a pas de causalité, il y a une synchronicité. C'est le mot que j'emploie, je suis tout pompé à Jung. Ça vient en même temps. Le SAMU, il vient parce que tout d'un coup, on prend conscience qu'il y a le fléau des accidents de voiture. Il y a 13 à 18 000 morts par an dans notre pays. Et 500 000 blessés. Il n'y a pas de ceinture de sécurité. Boire un petit coup, ça permet d'aller plus vite. Les constructeurs vous apprennent que vous appuyez à fond sur l'accélérateur, vous êtes comme un dieu. Les réseaux routiers, je ne raconte pas. Et là, ça casse le carton dont vous parliez.
Mais c'est énorme, je ne connaissais pas ce chiffre.
Et enfin, la différence ce fléau, on s'en arrangeait, c'est le prêt à payer. Et tout d'un coup, il apparaît intolérable. Mais on vivait avec. Et en plus, c'était des gens jeunes pour faire les fous sur la voiture, la moto, les circuits moto. Comme disait cyniquement mon patron, quand on voyait les mecs qui se doublaient avec des motos puissantes, que les constructeurs vendent à n'importe qui. Tiens, il y aura de la casse samedi soir. Bon, c'est des donneurs d'organes qui commencent. Donc, il disait ça parce qu'il avait de la peine, lui, parce que c'est des jeunes. J'ai fait une tribune, mourir pour Yamaha, mourir pour Honda. Bref, ça cassait. Et donc, c'est des anciens médecins militaires, dont mon patron.
Huguenard.
Pierre
Huguenard.
Oui, c'est bien. Ouais. Mais j'en parle encore maintenant, je l'aime encore, ouais. Il est mort, je ne sais pas combien de temps. C'était un mec qui m'a tout appris, mettre de l'ordre dans ma tête. Il m'a appris l'urgence, et je l'aime, à cause de ça. Je rêvais plus, là, il fallait penser en stratégie, en moment, on découpe le temps, la pathologie des premières minutes, des trois minutes, la pathologie après. Il ne faut pas s'obstiner, pas d'obstination, pas d'acharnement, il faut changer. Il faut avoir l'audace de changer. Il faut changer de protocole, changer de procédure. Et c'est un grand médecin français, qui était un de ses copains, qui l'a pillé un peu, qui était Henri Laborite, un grand nom, mais que les gens ont oublié. Mais c'est lui qui a inventé le choc, la protection, les neuroleptiques, l'ergactyle. Bref, j'étais d'une école prestigieuse. Et donc le SAMU a appris l'urgence. Moi, MSF, j'ai eu la chance, avec mes camarades, de pouvoir faire passer ce qu'on rencontrait, la médecine collective, les grandes catastrophes, les camps de réfugiés, les guerres, tout ça, à synthétiser, à faire un corpus de médecine de catastrophe que j'ai transmis à la fac. Mon patron, d'ailleurs, il a dit, comme c'était l'université, il a pu transformer en DU, un diplôme d'université, cette médecine de catastrophe que Médecins sans frontières, à travers moi, lui apportait. Tout le monde l'a pris pour un con. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est sa dernière folie, médecine de catastrophe, puis quoi encore, enfin, etc. Eh bien, c'est lui qui l'a transformé maintenant en médecine de catastrophe et enseigné partout et nécessaire pour les accidents collectifs. Toujours, oui, mais j'ai perdu le fil. Alors, quand je vous dis comment c'est apparu, ces médecins militaires, anciens médecins militaires.
Parce qu'ils étaient retraités très jeunes?
Non seulement qu'ils avaient fait la campagne de France. Vous savez, la France a le privilège d'avoir fait toutes les guerres. En Europe, en Corée, en Vietnam, en Algérie, en Afrique, on a été. Et les médecins ont suivi. Les médecins qui... Mais je vous parle pas de la médecine coloniale. C'est un mot qu'on peut plus prononcer, médecine coloniale. Mais ça a été des grands médecins, je sais pas combien de prix nommés. Ils étaient tout seuls, avec des territoires six fois grands comme la France. Et moi, c'est mes idoles. Alors, on dit non, on veut une médecine tropicale. Mais non, il s'appelait médecins coloniaux. Maintenant, ça a changé. Évidemment, faut pas faire d'anachronisme. Le mec était fier. Quand vous voyez des mecs comme Jameau, comme Lapessoni, comme Calmette et Guérin, alors qu'est-ce que vous voulez?
C'est le Calmette et Guérin, c'est le BCG.
Voilà.
Oui.
Donc vous voyez plein de gens qui ont donné leur vie, leur conviction. Ne faisons pas d'anachronisme, c'était d'un autre temps. Et ils ont fait disparaître Jameau. On disait Jameau réveillait l'Afrique. C'était la trypanosomiase, la mouche, c'est. Et c'est lui qui allait au devant. Alors il n'a pas des 4x4, c'est un tipoy avec 6 mecs qui dans la brousse. Ok, on ne peut pas lui en vouloir. 12 pour un médecin, pardon, c'est un infirmier 6. Seulement voilà, alors vacciner les gens, c'est un truc que je ne conseille pas. Il entourait le village avec ses fusillés marins, puis on vaccine tout le monde. Vaut mieux convaincre. Encore que quand on vous dit 11 vaccins obligatoires, sans ça, vous allez en taux. Non, je rigole. C'est un peu du bon.
Oui, mais... mais vous rigolez, mais vous êtes pour
bien
le
sûr
plus
que je suis pour.
De vaccins possibles.
Je suis pour convaincre les gens. Je suis pour que les gens soient responsables, qu'ils comprennent ce qu'on leur fait et pourquoi on le fait. Il faut prendre ce temps. Il faut respecter les gens. Il faut vous vacciner non seulement pour vous, mais aussi pour le lien sociétal. Plus il y aura de gens vaccinés, moins il y aura de risques d'épidémie. Si vous dites ça aux gens, mais ils sont contents d'aller en mission, en quelque sorte. Toujours est-il que ces médecins, à l'époque, se sont dit, mais l'accident de voiture, c'est comme la guerre. Donc on va faire des postes médicaux de l'avant. Quels ont été les pires ennemis du SAMU? Les médecins disent, mais écoutez, on n'est pas en guerre, les mecs. Vous traversez la rue, vous avez deux dispositifs médicaux. Et vous êtes là, sans examen complémentaire, sans...
Ah, et donc il y a eu une hostilité des médecins à la création... Enfin, des médecins installés en cabinet.
Mais oui.
Et...
On peut comprendre, c'est des... Comment vous dirais-je? Des changements culturels.
Oui.
Une nouvelle culture arrive. Des gens qui viennent d'ailleurs, quoi. Montrer leur efficacité. Mais c'est vrai que c'est un changement de culture. Et c'est vrai que ça a transformé l'hôpital complètement. L'entrée par le SAMU. On a été obligé de faire des soins intensifs. On a été obligé de faire des services de réanimation. On faisait plus de l'orthopédie, mais de la traumatologie.
Tout ça, ça date de ces années-là. Oui.
Je me rappelle les premiers, quand j'étais à Soissons, le National 2, les gens arrivaient tout cassés, vous ne savez pas où les mettre, ça saigne partout. Je vais raconter une histoire il y a très très longtemps. Je faisais un remplacement de médecin. Et puis, un matin, petit matin, ça sonne à la porte. Et je vais voir un médecin, à moitié réveillé, vite mon pantalon. C'était deux braves gendarmes. Dit docteur, j'avais été sympa avec eux, j'ai pris l'apéro. Enfin, et je ne leur avais plus. Dit docteur, il y a quelque chose pour vous. Moitié réveillé, ils sortent un brancard, un après l'autre, des blessés de la route, le sang qui coule du brancard sur le gravier. Je dis, mais vite, à l'hôpital. Oui, d'accord. Mais vous allez faire une consultation. On vous amène des clients. Je dis, d'accord, mais amenez-les à l'hôpital. Bon. Ils les remettent dans le fourgon, puis à l'hôpital. Et puis... Brave gens, vous savez, on vous en ramènera d'autres. c'était, ils ont voulu me faire une petite fleur. Donc on ne savait pas trop quoi faire. Jean, Gareth, je suis médecin, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y avait pas le SAMU. Il y a une époque sans SAMU, c'était le bon samaritain qui le prenait dans sa voiture. C'était d'abord un problème d'ordre. Police-secours, on ne voit plus police-secours, mais c'était la police. Qui appelait police? Les médecins ne sortent pas. Et la révolution, c'est l'hôpital hors les murs, l'hôpital qui sort.
Ce qu'est le SAMU.
Ouais. Oui, mais à l'époque, c'est un scandale. Un scandale, la révolution. Et il a fallu... c'est interministériel. Il a fallu la gendarmerie, il a fallu l'intérieur, il a fallu la santé, il a fallu les télécommunications, il a fallu tout ça. En France, vous imaginez, travailler en transverse dans notre pays ou d'experts, ça s'est fait. Ça s'est fait. Simone Veil a fait le 15 gratuit, mais ça existait déjà avant. Poniatowski a fait les salles de réveil quand elle était ministre de la Santé. Chacun, gauche-droite, a apporté sa petite pierre. Mais la révolution s'est faite comme ça et on a été pionniers. Le système SAMU, c'est un système génial. Il est cartésien. Il est fait parce qu'on connaît le choc, Henri Laborite. Il est fait parce que ces mecs savaient ce que c'était une stratégie, une application. Il est fait parce que c'est la règle des quatre tuyaux. Abord veineux, sonde gastrique, sonde urinaire et sonde trachéale. Systématique. Conscience, ventilation, circulation, cadre osseux. Conscience 1, 2, 3. Circulation interne, externe, intériorisée. Encore maintenant, vous passez devant un carnage, vous savez où vous en êtes en 30 secondes. Et vous savez comment appliquer. C'est à ces mecs qu'on le doit.
Pardon. Xavier et Emmanueli, nous devons nous arrêter là.
On s'arrête.
Merci beaucoup. Et demain, nous parlerons de la prison et de la maison de Nanterre. Donc, petit à petit, on va vers le SAMU social.
Et demain, la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Xavier Emmanueli. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Frédéric Quéroux, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.